Demande de travail. Le poème sur commande est un engin. Le constructeur d'engins peut en produire beaucoup, sans rien se procurer d'autre que la fatigue du travail manuel. L'objet peut être parfois ironique, l'engin l'est toujours. Les temps sont révolus où, économiseur vorace, je dépensais tout, investissant mes sous, beaucoup, car c'était ma semence, et j'étais toujours en érection, dans l'acquisition de zones de très faible valeur qui seraient rentables d'ici 2 à 3 siècles. J'étais ptolémaïque, étant un enfant, et je comptais l'éternité précisément en siècles. Je considérais la Terre comme le centre du monde, la poésie, le centre de la Terre.
Poésie, le centre de la Terre. On poursuit notre programme avec Pier Paolo Pasolini. Nous commémorions les 50 ans de sa mort début novembre. Écrivain, journaliste, réalisateur. C'est du Pasolini poète que nous allons parler ce midi. Transhumané et organisé. C'est le dernier recueil entièrement en vers publié du vivant de Pasolini en 1971. Il était jusqu'à aujourd'hui inédit en français. Il est traduit par Florence Pazzotou. On y lit plus de 60 poèmes et dans son prologue, on peut y lire cette phrase: le temps de la séparation est venu. Anne Dugin, qu'avez-vous pensé de cet ouvrage?
Ah bah là, ouais, il y a vraiment toujours une grande émotion à découvrir un inédit de Pasolini. C'est vrai que moi-même j'étais surprise par ce projet quand il est arrivé. Alors il y avait déjà des textes qui avaient été traduits en revue, mais jamais l'ensemble. D'ailleurs, je pense qu'on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles ça n'a pas fait l'objet d'une publication plutôt en France, mais donc c'est chose faite. Alors le danger avec Pasolini, c'est toujours de le ramener au mythe, et c'est toujours de lire quelque chose de testamentaire dans ce qu'il a écrit. Et là, évidemment, a fortiori, puisque ce sont les derniers poèmes, mais lui ne le savait pas et personne ne le savait. Et donc, je pense qu'il faut toujours... on ne peut pas échapper au mythe Pasolini, mais il faut faire attention de ne pas, s'y enfermer. Dans l'extrait qu'on a entendu, il dit « la poésie, le centre du monde ». Je crois que précisément, en fait, ces poèmes nous parlent d'un moment dans sa vie où il n'en est plus du tout là. Il est devenu cinéaste entre-temps. C'est un poète cinéaste. Et pour beaucoup de gens, c'est d'abord un cinéaste. Et je pense que
l'intérêt... Il vient de finir Théorème.
Et je pense que l'intérêt de ces poèmes, c'est de nous montrer qu'il n'a jamais cessé d'être poète et qu'en réalité, il y a ce moment de sa vie où le langage cinématographique et le langage poétique dialoguent ensemble. Qu'est-ce qui est discible, qu'est-ce qui est visible. Il y a quelque chose là qui me paraît très cinématographique dans beaucoup de poèmes. Mais il a poursuivi ce long cheminement des premiers poèmes frioulants, écrits en dialecte, qui avaient vraiment quelque chose de très tenu, de très rassemblé, où vraiment il fait son travail de poète, en sens qu'il tend l'instrument pour faire chanter la langue. Bon, et puis ça se délie progressivement dans les poèmes romains, enfin dans les recueils romains, quoi. Donc Les Cendres de Gramsci, Le Rossignol de l'Église catholique. Et là, il arrive, il poursuit encore dans cette veine où ça se délie encore plus et où le discours et le chant sont sans cesse entremêlés, et j'ai envie de dire douloureusement entremêlés.
Romain de Bec-de-Lièvre, Transhumané et organisé, c'est le titre de ce recueil. Il peut paraître assez étrange, voire abscon.
Oui, il est extraordinaire. il est expliqué à un moment. Alors, Pasolini dit, je cite un des poèmes, « La contemporanéité temporelle du transhumané n'est-elle pas d'organiser ?» Point d'interrogation.
Voilà, c'est à vous, vous avez 3 minutes.
Ce qui est génial dans ce recueil, c'est qu'il y a une préface de Pasolini où il dit comment lire ce recueil. Il ne faut pas lire les recueils de poésie dans l'ordre. Et il dit, allez directement, si vous avez envie de dire qu'un seul poème, un poème qui s'appelle « Poème de la tradition », la poésie de la tradition. Donc j'ai suivi Pasolini, en fait, le mode d'emploi. Et il dit les meilleurs, après il renvoie à des sections du recueil qui sont les meilleures selon lui. La poésie de la tradition, c'est un poème qui nous dit, en gros, il s'adresse à une génération, il fait « Oh, génération perdue, génération infortunée, vous n'avez pas compris la puissance révolutionnaire de la tradition », pour résumer très vite. Et c'était en gros un des legs de Pasolini qui a été extraordinaire. On peut penser l'évangile selon saint Matthieu, on va faire de Jésus-Christ un révolutionnaire qui apporte pas la paix mais l'épée. Et donc on a ce truc-là. Il nous plonge là-dedans, il nous dit la tradition, les amis, oubliez pas, ça a un potentiel révolutionnaire. On sent qu'il s'adresse, c'est assez flou, mais aux gens du communisme à l'époque installés. Ce qu'il y a de saisissant dans ce recueil-là, c'est que donc c'est très labyrinthique, il y a beaucoup de choses, ça commente beaucoup l'actualité, mais pour résumer, je dirais que Pasolini fait du sale. C'est-à-dire, il y a la question de la saleté qui revient tout le temps. Il y a
par
une
exemple
section du recueil qui s'appelle « Chartes souillées ». Et dans certains poèmes, il y a écrit « Le mot est illisible car il est recouvert de merde ». Et donc cette question de la saleté, elle infuse à peu près dans tout le recueil, et aussi formellement, comme disait Anne, les recueils précédents de Pasolini étaient formellement plus tenus. Là, on a des vers qui partent, qui ont des longueurs très très différentes, il revient à la ligne, il s'amuse beaucoup de la question de la commande, il y a des poèmes qui sont des commandes, donc qui sont des poèmes sales, qui sont parfois commandés par la télévision. Et donc on sent qu'il est dans un usage très intéressant de la poésie, où la poésie n'est plus au centre du monde, en fait. Elle a affaire avec la propagande, elle a affaire avec la guerre du Vietnam, elle a affaire avec les premiers attentats anarchistes italiens, et que donc le langage est dans un rapport à la vérité, qui est censé être le langage de la poésie, qui est très compliqué. Et j'ai trouvé très intéressant justement de le lire à ce prisme-là, c'est-à-dire on a un Pasolini qui commente l'actualité, qui n'est pas du tout testamentaire, voilà, c'est ce que dit la postface d'Hervé Joubert-Laurencin aussi, c'est l'idée, c'est pas le dernier Pasolini qui parle, quoi. Il est encore vivant, il est en plein dans des affres politiques qui sont à peu près encore les nôtres, la question de la propagande, la question du langage, la question de comment organiser aussi les choses du point de vue de la gauche, parce que c'est là aussi où il se situe, et c'est aussi un recueil qui fait rire. Il y a des moments où il est très très drôle, quoi. Il dit « je ne suis pas une grosse légume », par exemple.
Ce qui est drôle.
Ce qui est drôle.
Et la place de l'Italie dans ces poèmes-là, Anne Dugin ?
Ah bah, je pense qu'elle est centrale. En réalité, je crois que le fond de scène de tout ce recueil, bah, c'est l'Italie qui s'enfonce dans la violence politique. C'est les années de plomb. Il y a un long poème sur l'attentat de Piazza Fontana, qui on n'a jamais su d'ailleurs qui avait vraiment commis cet attentat, mais ça a été vraiment un point d'incandescence très important qui a considérablement accéléré la radicalisation de l'extrême gauche, qui quand même culminera dans l'enlèvement et l'assassinat du Premier ministre Aldo Moro. Et donc en fait, c'est vraiment le moment du désenchantement politique pour Pasolini, qui, comme le rappelait Romain, est à la fois pris dans cette critique très lourde, très dure du monde petit bourgeois, mais qui a à peu près autant de prévention à l'égard du Parti communiste italien, de la rhétorique de la lutte des classes, de tous ces discours, en fait, de ce monde saisi par les idéologies. Et la chose qu'il ne faut jamais oublier à propos de Pasolini, c'est que c'était un immense nostalgique de la vie pré-industrielle, de l'Italie d'avant le capitalisme, d'avant la lutte des classes, d'avant les ouvriers et les bourgeois. Et il n'a de cesse de vouloir retourner à cette vie première, à cette vie vraie qu'il va trouver chez les jeunes ouvriers, dans le monde paysan, dans la jeunesse, une jeunesse qui n'est pas encore sclérosée par les discours idéologiques, et jeunesse qu'il met en garde de ne pas tomber dans la rhétorique des avant-gardes, qui n'est qu'un nouveau conformisme, qui ne vaut pas mieux que le conformisme bourgeois. Et finalement, c'est ça que je trouve, c'est ça qui résiste chez Pasolini jusqu'au bout, y compris dans sa manière de faire des vers comme ça, un peu grandi qui, à mon avis, à l'époque, en France, passait très mal. Parce que dans les années 70, il faut rappeler qu'on a été dans un moment de formalisme critique.
Et c'est pour ça que ça n'a pas été traduit avant, selon vous ?
Je ne sais pas, mais ça peut être une clé d'explication. Enfin, nous, pendant ce temps-là, c'est Emmanuel Occar, c'est Christian Prigent. C'est-à-dire, on est dans de la radicalité politique très grande, mais une radicalité politique qui se mesure à son coefficient de dureté formelle, en fait. Donc, le côté très délié, très discursif, finalement, de Pasolini est complètement à contre-temps par rapport à nos figures de poètes de la même époque. Mais ce que je salue dans cette grande figure qu'est Pasolini, c'est que voilà, la vie passe avant. La vie passe avant la littérature, la vie passe avant les idéologies. Et il n'a eu de cesse de la rechercher, en dépit de tout ce qui le blessait dans ce que devenait le monde, quoi.
Romain de Bec-de-Lièvre, on comprend bien de quoi il s'agit dans cet ouvrage-là, mais peut-être sur la forme, sur la langue, pourriez-vous nous dire à quoi elle ressemble, cette langue du Pasolini de 1971 ?
C'est compliqué parce qu'il lui fait subir beaucoup d'opérations à la langue. Il y a des poèmes de montage, par exemple, où il va monter l'Apocalypse de Saint-Jean avec des trucs, des faits d'actualité. Il va y avoir des choses autour de Pie XII. Il y a tout un matériau documentaire. Hein. La question documentaire est très... dans la préface, il le dit d'ailleurs. Il y a une section qui s'appelle Documents. Donc il va beaucoup s'appuyer sur des documents, mais on va avoir quand même des choses de coupe, de retour à la ligne, des manières assez avant-gardistes. Et c'est là aussi on sent que le Pasolini cinéaste est en train d'opérer. Mais on sent une réflexion en train de se faire, c'est ça aussi qui est très fort, c'est on sent qu'il est en train de penser par poème et on l'a au présent. Et on a quand même le présent de cette pensée-là qui revient.
Forme et accessible ?
La forme est alors ça dépend.
Parce que vous avez dit labyrinthique au tout début.
Oui, c'est labyrinthique parce qu'il y a beaucoup de directions et puis il y a aussi des références à l'actualité qu'on n'a pas forcément. Après, il y a tout un appareil de notes qui nous renseigne là-dessus. Après, il y a des choses qui sont très très émouvantes. Par exemple, il y a l'expression, il écrit à un moment, les jeunes jettent leur corps dans la lutte. et c'est une des phrases de Pasolini qu'on a beaucoup entendue. Raymond Hogg, par exemple, le chorégraphe, en a fait le mantra de toute sa vie. Et donc, il est là, dans ce recueil. Cette phrase-là est dans ce recueil-là. Il y a comme ça des phrases qui vous accrochent. Ouais.
Anne Dugin, peut-être un dernier mot sur l'appareil critique. Il est nécessaire, donc, pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui, en 2025, de quoi il s'agit.
Oui, il est nécessaire, mais comme il est nécessaire au lecteur de la Divine Comédie, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a du circonstanciel, il y a de l'événement, si vous ne comprenez pas de qui il parle, vous dites « je passe à côté du poème ». Oui et non. Et je crois que, de même qu'on peut lire Dante sans être hyper au courant de ce qui se passait dans la Florence du XIIIe siècle, un certain nombre de ces textes passeront. Et je termine juste sur l'idée que il y a des moments où on retrouve ce Pasolini qui chante si bien, le premier Pasolini. Et par exemple, il est question d'un soir couleur de glycine. Et il a vraiment cette capacité de courber la langue pour la faire chanter. Et ça fait partie de ce qui résiste aussi dans ce texte.
Bien, merci beaucoup à tous les deux. Transhumané et organisé de Pier Paolo Pasolini, traduit et présenté par Florence Pazzotu, apparu aux éditions Lanskine. Signalez aussi la parution d'une biographie signée par Roberto Carnero, Pasolini, Mourir pour les idées. Ça, c'est au Cherche Midi. Et rappelez aussi que Sylvain Creusevaux met en scène très bientôt à l'Odéon Pétrole, toujours du même Pasolini. Et on a hâte. Merci Anne Dugin et merci Romain Debecq de Lièvre pour vos lectures. Et comme toujours, toutes les références des ouvrages sont sur la page des Midi de Culture sur le site de France Culture.